Ensemble sur Calade.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calade.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Calade. Nous sommes le mercredi 10 mai 2023. Le ciel du Beaujolais est bien nuageux aujourd'hui. Les températures ne dépassent pas les 16 degrés. Ça devrait continuer comme ça jusqu'à au moins demain et on attend d'éventuels orages demain après-midi. Au programme de notre émission, on va parler plantes sauvages aujourd'hui avec Gabriel Caramana. On va retrouver le prof Patrick pour terminer l'heure pour une rubrique socio-économique. Mais d'abord, je vous propose une interview du mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, une association regroupant un réseau associatif varié, sport, culture, environnement, éducation populaire, santé sociale, alimentation, monde rural ou encore tourisme. Et ils défendent donc les droits et les intérêts du monde associatif, que ce soit à l'échelle nationale ou régionale. À la fin du mois d'avril, ils ont publié une tribune alertant au sujet des libertés associatives, signée par 129 acteurs de la société civile. Alors pourquoi s'inquiéter des libertés associatives? Parce qu'il y a un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, interpellé sur des critiques formulées par la Ligue des droits de l'homme, association vieille de 125 ans ayant toujours défendu les droits et libertés de tous. Ce ministre de l'Intérieur a indiqué que les subventions accordées par l'État à l'association devraient être examinées, autrement dit. Si on critique un petit peu les actions du gouvernement, on risque de perdre ces subventions nécessaires au fonctionnement de l'association. Faut-il s'inquiéter pour la liberté associative? C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec nos invités. Arnaud Thénos, vice-président du mouvement associatif AURA, et Amélie Perrard, elle est déléguée régionale dans ce fameux mouvement associatif. Avant ça, on commence l'émission en musique. On parle association, j'ai dit ce mot déjà 25 fois depuis le début de l'émission. On écoute Zwinkel et TTC, c'est l'occasion ou jamais d'écouter ce superbe titre Association de gens normaux. Nous sommes ensemble sur Calade, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Association de gens normaux,
on est des types super sympas,
ambiance ultra amicale,
association de gens normaux,
l'occasion d'une vidéo style Lucie Abal,
pédo liquide jusqu'au petit tamas.
Association de gens normaux,
on est des types super sympas,
ambiance ultra amicale,
association de gens normaux,
l'occasion d'une vidéo style Lucie Abal,
pédo liquide jusqu'au petit tamas.
Je te jure, je suis un mec normal, le problème c'est quand je rigole, je deviens comme O.J. Simpson.
You're gonna die like me.
C'est la fête avec les Zwinkels, le grand partage de l'alcool. Y'en a un qui t'a piqué ton verre, mais tu sais pas lequel normal. Si après je m'en sors mal, je me sens informe, tellement je dors mal. Et que dans ma piole, ça s'en fend le mal. Hier, soirée banale, avec des décisions, buvait de la bière. Bref, je suis normal et j'ai rien fait, je suis le commissaire.
Normal, une espèce rare à garder dans du formol qui va jamais à la pharma. Café normal, super Harvard, un rappeur normal. Un noir plein de pute qui rafle tout au Grammy Award. Un mec normal qui a peur d'un pit et surtout qui aime pas le rap. Un mec qui économise comme un maudit pour mourir dans un virage en Audi. Un quadra sous des primes, j'ai son psy qui se fait tout petit. Qu'a pas fait de pipi au litard, se couche tôt. Regarde pas de film porno et surtout frotte pas dans le métro. Un mec qui sort de table sans faire un haut. Compte déjà en euros, c'est aucun neurone. Pas un mec qui se rache comme Paul. Ou un mec qui plage comme Xanax, qui a pris de la dopamax. Et surtout qui s'en tape de faire du rap sur des mixtapes.
Le soleil brille dans le ciel, il est déjà midi. Je me réveille dans la rue, tous les passants me sourient. Instantanément, j'oublie tous mes soucis. Je suis normal depuis qu'ils m'ont fait sortir de l'hôpital. Les gens qui passent ne comprenaient pas mes envisages. Je me suis senti mal, ils ont froissé mes sentiments. Je me suis enfermé dans une salle en disant je suis brisé, je vous en supplie, laissez-moi respirer.
Et c'est le groupe dans le rap qui s'éclate. C'est un coup de feu au milieu d'une salle de concert. Ça fait fuir tout le monde, sauf que toutes les rats écartent. Place au spectacle, Tumblr, jean, sampler, jean, plat, fine lame, shit gras, tendeur, disgras, de l'amusement abrutissant, voilà ce que c'est. Laissez place au style, puise le mec dans la discothèque, il rock la place et file dans ses baskets, chercher la compète sans être hautain, honnête, respectueux, même vis-à-vis des produits défectueux. Même vis-à-vis des produits défectueux.
Association de gens normaux,
on est des types super sympas,
ambiance ultra amicale,
association de gens normaux,
l'occasion d'une vidéo style Lucie Abal,
pédo liquide jusqu'au petit tamas.
Ma vie c'est la vie de bureau mais quand même c'est bab. Rendez-vous important chez le rebeu, déjeuner d'affaires au kebab, journée normale, Renault Espace, tape piqueur brut pour aller jouer dans le coup du cul du monde. 3 plouf, t'es devenu normal. Obsédé sexuel comme tout le monde, donc t'es un peu davantage. J'ai t'as le matos pour un plan bondage, mais pour l'heure, c'est quoi les titres, on va te finir au finger. Laisse-moi mettre deux doigts de coupe-fin dans ta boîte à bonheur.
C'est à répète que notre hip-hop est conceptuel, nos flots expérimentaux et nos sons extrêmes, on s'en fout. On fait ce qu'on aime, ce sont les autres qui s'en foutent. Je suis lucide, j'avance les mains en l'air et soyons stupides. Sinon nous supprime nos bouteilles, nos appareils dentaires, nos bougies à la cire d'abeille, nos caractères, nos artères. Nous reste plus qu'à faire du rap de gangster. Je suis caustique, vive les alcooliques, mort au rap colis.
Il flotte une ambiance bizarroïde, une seringue lyricale dans la veine, tu te vomis dessus, ta glande thyroïdale s'agite, un coup sec sur la carotide et tu crèves tout de suite et die. On se prend le reste sur nos têtes.
Association de gens normal, c'était Sfinkel et TTC qu'on vient d'entendre. Bon, c'est plutôt une association pour faire la fête, c'est pas forcément le sujet de notre émission.
Ensemble sur Calade.
Et tout de suite, on est en compagnie de Arnaud Thénoz, vice-président, et Amélie Perard, déléguée régionale de l'association Le Mouvement Associatif Aura. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et merci de passer ce moment avec nous. On va parler du mouvement associatif, et puis on va parler aussi d'une tribune qui a été publiée, si je ne dis pas de bêtises, le 27 avril, au sujet de la liberté associative. Avant de parler de cette tribune, est-ce qu'on peut déjà présenter le mouvement associatif ?
Oui, alors le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une association qui regroupe un ensemble de têtes de réseau associatifs, c'est-à-dire des fédérations régionales, des coordinations, des groupements associatifs régionaux, au sein duquel, donc au sein du mouvement associatif, sont représentés 14 membres qui représentent différents secteurs associatifs, de la culture au sport, en passant également par le sanitaire et social, ou même encore par rapport à une particularité de notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes, le groupement régional des épiceries sociales et solidaires d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, au sein du mouvement associatif, on fédère l'ensemble de ces têtes de réseau régionales qui représentent les associations de l'ensemble, qui sont présentes sur l'ensemble du territoire, et on travaille ensemble à un plaidoyer commun pour promouvoir et défendre les associations auprès des pouvoirs publics, de nos partenaires et au sein de la société elle-même.
D'accord, donc c'est un rôle de représentation principalement.
C'est principalement un rôle de représentation, mais on travaille aussi bien sûr au développement et au soutien aux associations à travers notamment un renforcement de plaidoyer sur les subventions publiques qui sont données aux associations. On travaille également à une organisation territoriale des acteurs de l'accompagnement qui vont être au quotidien présents et acteurs pour soutenir les associations. Et on va être également présents aussi en partenariat avec d'autres acteurs sur l'écosystème de l'ESS, l'économie sociale et solidaire.
Et ça existe depuis combien de temps ?
Alors, au niveau national, le mouvement associatif s'est fondé dans le début des années 90, mais officiellement est devenu la CPCA, l'ancien nom du mouvement associatif, dans les années en 1999. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, la constitution régionale a suivi. Donc, le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes existe depuis un peu plus de 20 ans.
D'accord.
Maintenant.
Donc c'est pas tout jeune. Et en général, quand quelque chose existe, c'est qu'il y en a besoin. C'est ce que vous savez au moment où ça a été créé, ce qui a pu réunir des gens et se dire il faut qu'on crée quelque chose pour défendre les associations, les soutenir, les aider, les accompagner.
Oui, c'est l'émergence d'une volonté commune de se regrouper pour défendre les intérêts des associations, quelles qu'elles soient. D'ailleurs, la tribune dont on va parler était une suite de ce qui a été mis en place. L'objectif, je rajouterais aussi, c'est de défendre les intérêts, les intérêts communs des associations dans un territoire, par catégorie, mais surtout collectivement, parce qu'on a les mêmes problématiques qui s'imposent à nous, et de rester seul dans un coin à essayer de trouver des solutions, n'est pas la solution idéale. La solution est plutôt de se regrouper de manière à mieux se défendre et de mieux être entendu sur les difficultés qui sont les nôtres, dans l'application des règles notamment, mais aussi sur l'écoute que peuvent avoir les pouvoirs publics, sur les activités tant importantes des associations dans notre pays et dans notre région.
Ouais, le monde associatif, c'est quelque chose d'extrêmement large entre le petit club de foot local et une grande association humanitaire. Il y a vraiment des univers très différents qui fonctionnent, avec les mêmes règles communes, on va dire. Comment est-ce qu'on réunit tous ces mondes différents et comment est-ce qu'on travaille avec ces univers-là ?
Il y a des socles, le socle est commun, c'est-à-dire qu'une association, quelle qu'elle soit, fonctionne de la même manière. Après, dans les activités propres de chacune, on a effectivement des thématiques qui se développent, des thématiques très particulières, mais qui ne peuvent pas souvent être défendues seules. C'est ce que je dis tout le temps, c'est qu'on a besoin des autres, même s'ils ne sont pas confrontés à la même thématique, d'avoir un appui dans la défense des intérêts d'une action, d'une association ou d'une fédération ou d'une confédération, puisque nous, on est plus dans les têtes de réseau, puisqu'on regroupe les têtes de réseau régionales des activités associatives les plus répandues, on a besoin d'être nombreux pour se défendre. Voilà.
Peut-être pour rajouter sur des exemples concrets au sein du mouvement associatif, on va pouvoir parler clairement de la question du bénévolat, la question de l'engagement, la question de l'emploi associatif, qui sont des thématiques qui traversent l'ensemble des associations, qu'elles travaillent sur l'environnement ou qu'elles soient une association culturelle. C'est vraiment des questionnements, des enjeux qui visent l'ensemble des associations et sur lesquels on peut en effet s'unir pour mieux répondre et se partager un ensemble de pratiques.
Et le monde associatif dans la société, dans l'ensemble de la société, représente quoi ? C'est quoi son rôle, vous qui... C'est une question qui doit être au cœur de votre association, de défendre les intérêts du monde associatif. Ça sert à quoi le monde associatif aujourd'hui ?
On a pu s'en apercevoir pendant le Covid.
Ouais.
Dans le monde associatif, il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de vie dans les territoires. Ouais. Ça, c'est très important. Et ce n'est pas l'État ou les collectivités qui peuvent prendre le relais, seuls, du moins. Et donc, on a notre modèle social français est bâti en partie sur l'action bénévole pour aider, accompagner dans des secteurs. Vous avez cité le club de foot, donc c'est l'engagement auprès de la jeunesse sur une partie sportive, mais nous avons aussi au niveau de la culture, nous avons aussi au niveau du patrimoine, de toutes sortes d'activités, ou du social surtout, puisque les Restos du Cœur sont néanmoins une association à la base, qui ne pourrait pas fonctionner sans l'engagement de milliers de bénévoles qui permettent justement d'accompagner les populations les plus en difficulté. Et ça, c'est très très important dans notre fonctionnement, dans le fonctionnement de notre pays. Là où on peut pointer du doigt, c'est que l'État reconnaît qu'il y a un engagement, mais ne reconnaît pas suffisamment, ou du moins pas à la hauteur, des engagements qui peuvent être portés par les structures associatives.
Je peux me permettre de rajouter, c'est vrai que, comme l'a dit Arnaud, je le traduirai dans d'autres termes, mais les associations, elles font vivre la démocratie. Aujourd'hui, c'est un Français sur deux qui est engagé dans une association, et c'est un lieu où on agit, où on innove, on est citoyen au quotidien, bien sûr dans notre quotidien, mais dans les associations, on fait vivre un modèle démocratique choisi et dans lequel chacun et chacune peut s'engager.
Et justement, on parle des bénévoles parce qu'il n'y avait pas de monde associatif sans bénévoles. J'ai entendu une personne sur deux aujourd'hui en France est bénévole dans une association et ça me paraît beaucoup, mais c'est une bonne nouvelle.
Alors, un Français sur deux fait partie d'une association.
D'accord. C'est quoi la différence alors ?
Alors, on peut être adhérent d'une association. Okay. Dans un club de sport, on peut bénéficier des activités, participer aux activités, mais être bénévole, c'est s'engager au sein de l'association.
Et du coup, la proportion de bénévoles, est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous savez combien il y a de bénévoles en France ? Je ne sais pas, dans toutes les associations qui peuvent exister.
Oui, alors en Auvergne-Rhône-Alpes, je vous donnerai les chiffres français après, mais en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 1,7 million bénévoles qui sont engagés dans une ou plusieurs associations.
Ils
peuvent être également engagés.
L'une des questions aussi du monde associatif est concerné par votre tribune, c'est sa liberté. Les associations dépendent souvent de subventions du gouvernement. Et j'ai l'impression que c'est ça le cœur de la tribune. C'est que quand on touche une subvention, le gouvernement se permet de dire si on vous donne des subventions, vous devez respecter toutes les règles qu'on fixe, c'est ça ? Je résume à gros trait.
C'est bien résumé, en fait. C'est bien résumé.
Ouais.
En fait, effectivement, toute association, quelle qu'elle soit, qui a une subvention, doit justifier l'utilisation de cette subvention. Ça, c'est pas du tout remis en question. Ce qu'on a voulu faire noter, c'est la mise en place de tout un certain nombre de garde-fous qui obligent une association qui a une subvention de devoir respecter tout un tas de règles complémentaires qui ne vont pas dans le sens de la démocratie telle qu'on la connaît et qui ne vont pas dans le sens de la liberté d'association. Et c'est ce sur quoi nous avons saisi que le mouvement associatif national, et une tribune bien au-delà a été émise, puisqu'il y a beaucoup de signataires aujourd'hui, pour rappeler que il est bien évident que l'État doit nous accompagner, mais il faut aussi nous laisser travailler et nous laisser libres dans les actions que nous portons, y compris dans l'utilisation des fonds publics pour lesquels nous avons été aidés, et non pas que ces fonds publics soient pointés vers des directions que l'État souhaiterait lui-même.
L'origine de cette tribune, l'élément déclencheur, ça a été une question entre le ministre Darmanin et la Ligue des droits de l'homme. Ça a beaucoup fait parler. Est-ce qu'on peut rappeler cet événement ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, alors en effet, on peut rappeler les événements suite aux manifestations qu'il y a eu à Sainte-Soline. La Ligue des droits de l'homme a dénoncé l'action des forces de l'ordre et l'inaction aussi qui avait été justement possible de la part des urgentistes de ne pas accéder et de ne pas secourir. Donc il y a eu une dénonciation en fait de la Ligue des droits de l'homme pour atteinte à la protection des personnes. Et suite à ces déclarations de la Ligue des droits de l'homme, le ministre Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a été amené à réagir et à demander que soient revus les financements de la Ligue des droits de l'homme, sous prétexte qu'il n'avait pas à se prononcer sur l'action de l'État qui avait été portée lors de la manifestation, en tout cas la réponse de l'État sur la manifestation à Sainte-Soline. Donc il y a eu une menace sous-entendue en fait, de contrôle de la Ligue des droits de l'homme par l'État, sous prétexte qu'ils reçoivent des subventions de l'État. Ils n'auraient pas le droit de dénoncer
de critiquer des actions qui sont
aussi portées par l'État.
Alors, pour moi, cette tribune, ça a aussi été l'occasion de découvrir, parce que j'ai beau travailler dans une radio associative et être l'un des premiers concernés, j'ai découvert les contrats d'engagement républicain que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est juste le principe du contrat d'engagement républicain?
Alors, le contrat d'engagement républicain, il s'inscrit dans la loi séparatisme qui a été adopté par le Parlement en août 2021. Et en fait, dans cette loi, qu'on dit la loi séparatisme, qui est en fait la loi confortant les principes de la République, intitulée comme suit, est inscrit ce contrat d'engagement républicain qui en fait demande aux associations qui reçoivent des subventions de l'État, de toute institution confondue, mais qui proviennent de l'État, qui oblige donc les associations à signer cet engagement. Les associations s'engagent à respecter un certain nombre de principes républicains comme instruits dans ce contrat d'engagement républicain. Or, on se rend compte que c'est vraiment une menace aux libertés d'expression. Tel est l'exemple suite à la Ligue des droits de l'homme, puisque il peut être utilisé comme moyen de limiter les subventions aux associations du fait qu'une association ne respecterait pas tel ou tel principe. Donc c'est un contrat qui n'a de contrat que de nom. On aime bien rappeler ça parce que c'est pas un contrat qui engage l'État, c'est un contrat simplement qui est signé par les associations si elles souhaitent, si elles demandent des subventions publiques, et donc qui oblige les associations à faire valoir ces principes au sein de leur vie, de leurs activités, et qui même sont incités à les à exposer ce contrat d'engagement républicain publiquement sur dans leurs locaux, etc., pour informer les adhérents que voilà, il y a une adhésion à cette principe.
D'accord.
Donc c'est un quelque chose sur lequel c'était fortement opposé, même dès l'écriture et la proposition de loi qui avait été portée au Parlement. Le mouvement associatif au niveau national et au niveau régional s'y était fortement opposé, puisqu'on avait senti venir les conséquences. Et de fait, aujourd'hui, c'est une vraie boîte de Pandore qui s'ouvre, puisque on voit bien les conséquences peuvent être illimitées des réactions de l'État.
Et je crois qu'il y a déjà eu des exemples de fois où ce contrat d'engagement républicain a été utilisé pour arrêter les actions de certaines associations ou les limiter en tout cas, notamment je crois, Alternatiba plusieurs fois a été stoppé. Ils ont organisé des... C'est encore une fois des choses que j'ai trouvées sur votre site internet, il est bien référencé, il y a plein d'infos super sympas. Alternatiba qui organisait des cours de... contestation non violente, grosso modo, j'ai plus le terme exact, ça a été jugé non républicain et donc interdit, et donc ils se sont fait sucrer des subventions ou le droit de louer une salle, je sais plus, quelque chose comme ça. Donc effectivement, ça peut être inquiétant, et je crois qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, il est particulier ce contrat d'engagement républicain, ça veut dire que dans chaque région, il peut être différent.
C'est ça la difficulté, c'est qu'il y a un texte national qui a été validé, avec des principes, mais qui sont adaptables au coup par coup en fonction des strates régionales, enfin des strates politiques, hein, conseil régional, conseil départementaux, ou alors même collectivité intercommunale. Chacun a la possibilité de modifier ou de rajouter des éléments dans ce contrat d'engagement républicain, ce qui fait qu'on a en plus une inégalité territoriale où chaque association en France n'est pas traitée de la même manière. En plus, c'est pour ajouter ce que disait tout à l'heure Amélie, c'est que c'est un effet aussi compliqué, notamment pour les têtes de réseau qui sont souvent en lien avec les députés, les sénateurs, les ministres même, et chaque élément d'échange qui aurait pu être fait avec un de ces représentants de l'État engage à un contrôle strict pour ne pas que ce soit considéré comme du lobbying ou comme autre chose. Donc ça pose aussi un réel problème puisque sans pouvoir discuter avec ces personnalités, on ne peut pas faire évoluer les choses, notamment dans l'action associative. Donc c'est vraiment un texte qui est décrié, qui n'est pas adapté, et vous le dites vous-même, qui est adaptable par région ou par réseau, donc qui pose vraiment un problème d'équité. Même.
Alors avec la nuance qu'à la base, la loi justement avait pour objectif d'uniformiser justement les modalités... de distribution de subventions, et donc ce contrat devait rester un contrat et un texte national. Or, on l'a vu, hein, 2 mois après l'application de la loi, le Conseil régional, en effet, Auvergne-Rhône-Alpes, s'en est saisi pour adapter et ajouter ou supprimer surtout des articles qui lui semblaient pas importants. Donc, finalement, il y a eu... cette ouverture qui a été possible, alors c'était pas du tout à l'origine ce qui était prévu par la loi. Et juste pour compléter, ce que dit Arnaud, c'est qu'en effet, notre relation partenariale qu'on tente d'établir en association, notamment tête de réseau, les relations qu'on établit avec l'État, avec les pouvoirs publics, elle est mise à mal de fait parce qu'il y a ce texte qui nous contraint à certaines obligations, à un certain respect. Or, il n'y a pas une égalité entre associations et pouvoirs publics.
Ouais, le rapport de force, il est complètement déséquilibré. Les associations doivent rendre des comptes pour rester dans les clous en permanence, c'est ça ?
Oui, exactement, c'est ça.
Et à travers la tribune donc, que vous avez publiée, qui a été signée par de nombreuses associations... C'est quoi l'objectif ? C'est alerter l'opinion publique, essayer de faire modifier des choses. C'est l'objectif à terme, ce serait quoi ?
Alerter l'opinion publique, bien entendu, mais aussi de faire prendre conscience à nos gouvernants qu'il y a des choses qui ne sont pas faisables, en fait, qui ne vont pas dans le bon sens et qui nuisent au bon dialogue qu'il peut y avoir entre les représentants associatifs et les représentants de l'État. C'est très important. Souvent, là, c'est dû à un propos d'un ministre. Ce n'est pas forcément la vision de l'ensemble du gouvernement, mais si on n'agit pas, on peut très bien être mis de côté et ne pas prendre en considération nos problématiques et de fait, voir appliquer systématiquement par dépit cette règle progressivement jusqu'à un élargissement total qui étoufferait purement et simplement la parole des associations.
Ouais. Merci de nous avoir expliqué tout ça. Donc cette tribune, on la mettra sur notre site internet pour qu'elle puisse être lue par le plus grand nombre, avec le lien vers votre site également pour retrouver toutes les informations utiles que j'ai pu citer. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous en parler, de nous présenter donc le mouvement associatif Auvergne-Rhône-Alpes. Si, je ne sais pas, des associations nous entendent et veulent vous contacter, se disent « tiens, ce serait sympa si on pouvait avoir un contact avec eux », comment ça se passe ?
N'hésitez pas, comme vous l'avez dit, vous trouverez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail suivante aura@lemouvementassociatif.org.
Parfait, merci beaucoup, très bonne journée.
Merci à vous.
Merci.
Ensemble sur Calade.
Allez, un petit peu de musique tout de suite. Tiens, je vous ai trouvé un duo qui ne doit pas être bien connu. Il s'appelle Bob et Flanagan et le morceau, c'est Les Bénévoles.
C'est un vibrant message d'amour et de respect qui résonnerait comme un hommage à tous les bénévoles pour leur dire notre admiration. C'est souvent grâce à eux qu'on peut faire tourner nos chansons. Mais ouais, mais ouais. Et puis c'est l'occasion de se faire une spéciale dédicace à tous les gens qui font que ce soir on est dans la place. Ça fait des mois qu'ils se préparent ces branles de combat dans l'assaut. Ils font les qui dit les gilets en apéro. C'est sûr que c'est pas rien de se donner autant de mal pour que les autres se sentent bien. Mais nous on s'est confinés. Oh, mais qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Surtout qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Chapeau à ceux qui montent des chapiteaux. Dédicace particulière à ceux qui nettoient les water. Tous ceux qui travaillent dans l'ombre comme les lutins du Père Noël. Ça c'est sûr qu'il faut du monde pour que la fête soit plus belle. Mais ouais, mais ouais. Ils avaient tout prévu et pourtant il y a toujours les imprévus. Des fois c'est la panne de courant ou les échos qui sont perdus. C'est le rush à la buvette, c'est le bordel dans le planning, c'est la pénurie de galettes. C'est sûr que c'est pas rien de se donner autant de mal pour que les autres se sentent bien. Mais nous on sait qu'au final. Ouais, mais qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Surtout qu'est-ce qu'on rigole quand on est bénévole. Et nous offrons ces quelques rimes à tous les gens qui se démènent. Tous ces héros anonymes qui ensoleillent un week-end. Le lendemain, ils ne sont pas nombreux quand il faut nettoyer le site. Mais ils sont pas malheureux qu'ils trouvent de la thune et du shit. Mais ouais.
moins ça il méritait bien un éloge. Et puis ça compte pour toutes les fois où on a ravagé les loges. Les bénévoles ne s'ennuient pas,
non,
ils s'activent de bon cœur. Et nous on sait déjà qu'ils se rattraperont sur la peur. C'est sûr que c'est pas rien, mais ça valait la peine. Et tout le monde espère bien remettre ça l'année prochaine. On a vraiment du bol
quand on est bénévole.
S'active on bricole
quand on est bénévole.
Faut pas qu'on s'emballe
quand on est bénévole.
On touche pas le pactole
quand on est bénévole.
La nuit est rock'n'roll.
Vive les bénévoles de toutes les associations. C'était Bob et Flanagan qui nous chantaient ce joyeux morceau, Les Bénévoles.
Partez à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région. Apprenez à les reconnaître et à les cuisiner avec Gabrielle Caramana, ethnobotaniste et fondatrice de l'association amplepuisienne Ampliflore. Tout de suite, découverte sauvage au fil des saisons.
Bonjour, chers amoureuses et amoureux de la nature. Sans doute avez-vous déjà entendu parler de l'ortie blanche, ou peut-être avez-vous utilisé un shampoing en contenant. Cette plante est en fait un lamier, et bien qu'elle lui ressemble à s'y méprendre, elle n'a rien à voir avec l'ortie, qui est de la famille des urticacées et qui pique. Le lamier blanc, surnommé ortie blanche, est classé, lui, dans la famille des lamiacées. Son nom scientifique est Lamium album. Dans la mythologie grecque, lamia signifie ogresse et provient du mot laimos, pour gorge ou gosier. La corolle à deux lèvres des lamiers peut évoquer, avec de l'imagination, une gueule ouverte. C'est pour cette raison que cette famille botanique était anciennement nommée les labiers, comme labial. Cette famille naturelle regroupe environ 6700 espèces dans le monde, et notamment un grand nombre connu de plantes aromatiques, telles que thym, lavande, basilic, origan. Le lamier blanc est une plante pérenne de 20 à 60 cm de haut. Sa tige est dressée et porte des feuilles dentées, opposées l'une à l'autre, en forme de cœur un peu allongé. Ces magnifiques fleurs blanches, bien visibles, entourent la tige à chaque étage de feuilles. Toute la plante est couverte de poils fins. On trouve notre lamier blanc sur tout le territoire beaujolais, sauf sur les étages montagnards. Ses habitats sont les prairies, les friches, lisières, clairières, le long des pistes dans les forêts riveraines, aux abords des lieux habités. Donc, dans une large gamme de milieux, pour peu qu'il soit frais, à humide et souvent riche en azote. Une confusion est possible avant la floraison avec l'ortie et d'autres lamiers. Le risque est sans danger car ils sont tous comestibles. En cuisine, les feuilles des lamiers forment de bons légumes. Les jeunes pousses tendres du printemps peuvent être ajoutées aux salades. Les feuilles plus âgées peuvent être cuites de différentes manières, en soupe ou en légumes verts. Comme l'ortie, le lamier blanc est présent presque toute l'année. Peut-être en ferons-nous un légume de demain. Aucune précaution particulière n'est requise avec le lamier. On récolte comme plante médicinale la fleur du lamier blanc, à la main, par beau temps sec, et on la fait sécher en couches minces à l'ombre, rapidement, ou en séchoir, à 40 degrés maximum. Ces fleurs ont un parfum mielleux et un goût amer. On les conserve au sec dans l'obscurité. Elles contiennent des mucilages, des tanins, de la saponine, des glucosides, des minéraux. Elles sont légèrement astringentes et ont un effet anti-inflammatoire et diurétique. Elles sont expectorantes et efficaces dans le traitement d'affections gynécologiques. Elle favorise aussi les échanges métaboliques dans l'organisme. Les sommités fleuries sont utilisées en lotion sur le cuir chevelu ou en cas de pellicule. En cette saison, vous pouvez utiliser les fleurs fraîches du lamier blanc en dépuratif de printemps. Il suffit d'en préparer une tisane édulcorée au miel. D'ailleurs, c'est aussi une plante mellifère. Je vous souhaite de bonnes cueillettes.
C'était Découverte sauvage au fil des saisons avec Ampliflore pour partir à la découverte des plantes sauvages comestibles de notre région.
Que l'eau de mon chaudron frémit, entre en ébullition, quelques racines de pissenlit à la décoction, une larme d'hydrolat, valériane ou cassis, pétale de calendula pour soigner mes soucis. J'ajoute une pincée d'origan, de la nigelle dans du miel pour attirer les corrigans. Passiflore ou bardane en élixir floraux. Je purifie mon antre à la sauge ou au palo santo. Fruits, graines, feuilles, écorce et racines. Chaque plante serait donc un recueil de médecine. Et celle qui nous ferait le plus de bien ne viendrait pas de si loin. Elle pousserait même dans nos jardins. En cueillant la mélisse pour soulager mon ventre, je rappelle au labo que mon corps n'est pas à vendre. Pour me tenir loin de tout ce que les lobbies favorisent, je m'en vais me soigner chez mon herboriste. Si dans la contrée on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Je me soigne avec les plantes, elles soulagent mes problèmes. Le système
pharmacopée, sirop à boire au goulot. Je me soulage au tucilage et à la sève de bouleau. Spiruline, chlorelle, prêle ou romarin. De la cannelle ou du thym, en faire parler lutin. Une feuille de plantain, ça nous plante un décor. Macérat de consoude pour qu'on soude nos corps. Tenture de mille pertuis quand je sais plus ce qui m'arrive. Je m'en vais cueillir du lierre pour en faire ma lessive. Et la menthe de mon amande suffit à me nourrir. Je cultive la marrante pour garder le sourire. Son caractère piquant et ses pouvoirs enfouis. Existe-t-il une femme aussi belle que l'ortie, que je puisse l'inviter à des câlins nature, que l'on s'en aille ensemble compter les cailloux, récolter l'arnica parfait pour les coups durs et bien sûr du gingembre pour les coups de mou. Si dans la contrée on m'appelle le vieux druide, c'est pour les secrets de mes potions apaisantes. Dans le vieux grimoire qui me sert encore de guide, dorment les histoires racontées par les plantes. Mon jardin est vert, garanti sans pesticides, gentiment offert par la nature environnante. Pleine de ces fleurs qui sont aussi nos racines, une médecine naturelle et abondante.
Calune avec Je me soigne avec les plantes. Je vous passe de plus en plus de musique de hippie, ça doit être depuis que je me laisse pousser les cheveux.
Réfléchissez deux minutes.
Ensemble sur Calade.
Accessif.
Le prof Patrick.
Allez, on retourne à l'école avec le prof Patrick. Bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ?
Tu ne sais peut-être pas, mais en novembre 2021, il n'y a pas très longtemps, le groupe Total, groupe français énergéticien, décide de planter au Congo des millions d'arbres. Sur une zone de 40 000 hectares au nord de Brazzaville. L'objectif, c'est de séquestrer plus de 10 millions de tonnes de CO2 sur 20 ans. Séquestrer, ça veut dire retirer de l'atmosphère 10 millions de tonnes de CO2. Donc, c'est génial. Ils vont contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
Ça sent le greenwashing.
Alors, pour information, les arbres en question, ce n'est pas des arbres africains, c'est des arbres qui viennent d'Australie et d'Asie du Sud-Est, c'est des acacias mangium. Je reviendrai sur cet aspect-là. Okay. Bon, il s'avère aussi qu'ils vont exproprier des milliers de locaux, un habitant locaux, mais on ne va pas chipoter pour si peu, c'est bon pour la planète, Mathieu.
Okay. Tant c'est pour les locaux.
Voilà, c'est un peu, on y reviendra. Hein. C'est un peu l'idée depuis des années, hein. Planter des arbres, c'est bon pour la planète, puisque les arbres séquestrent le CO2 présent dans l'atmosphère, et donc plus on a d'arbres, plus on peut retirer du CO2 de l'atmosphère et lutter contre le réchauffement climatique. Ça paraît génial, ça paraît logique, tout va bien, sauf que, problème, ça ne fonctionne pas si bien que ça en réalité, loin de là. D'où le titre de ma chronique, « Planter des arbres pour sauver le climat, analyse d'une fausse bonne solution ». On va remonter au point de départ. Ouais. 1997, le protocole de Kyoto est signé entre différents pays pour prendre des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est là qu'est inventée la notion de mécanisme de marché de droit à polluer qui sera mis en place par l'Union européenne. En fait, chaque entreprise qui est un gros émetteur de gaz à effet de serre se voit allouer des droits à polluer pour l'année à venir. Et s'il n'utilise pas tous ses droits à polluer, il peut les revendre à une autre entreprise qui aurait dépassé ses quotas de pollution autorisés. C'est à ce moment qu'a été décidé que planter des arbres permettait d'obtenir des crédits carbone, d'accord, pour les entreprises. Et donc c'est là que les entreprises se sont dit, on va planter des arbres massivement. Et généralement, c'est dans les pays en développement que les arbres sont massivement plantés, parce que comme ça, on les paye pour qu'ils plantent des arbres, et ça fait des crédits carbone pour les entreprises des pays développés, les multinationales. Voilà. Alors, face à ce bon raisonnement, je vais noter 6 accros à ce joli tableau. Premier accro. Généralement, ça se fait, comme on l'a vu dans le cas de Total que je viens de citer, en mode colonial. C'est-à-dire, on ne consulte pas vraiment les populations locales. On leur dit, t'es gentil, tu dégages. Et elles dégagent. Donc, elles vont ailleurs. Ailleurs, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont déboiser. pour pouvoir exercer leur activité agricole, d'accord ? Ouais. Donc en fait, ce déboisement, il n'est pas comptabilisé. Donc on plante des arbres d'un côté, mais ce qu'on ne comptabilise pas, c'est que des arbres sont déboisés souvent à côté. C'est l'exemple qui est arrivé en Belize, en Amérique centrale, une zone de conservation et de gestion de Rio Bravo, créée en 95, qui a donné lieu massivement à ce genre de choses, et c'est très fréquent. Deuxième accro à ce joli tableau, une forêt capte plus de CO2 qu'elle n'en rejette, uniquement en phase de croissance. Donc ça ne dure pas si longtemps que ça. Mmh. Dès qu'elle est en phase de maturité, elle capte très peu de CO2. D'accord ? Troisième accro au tableau, il faut regarder aussi ce qui se passe sous les arbres, sur le sol. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que les sols, ça stocke généralement, pas tous les sols, mais beaucoup de sols stockent généralement 3 à 4 fois plus de CO2 que les arbres. Ouais. Oui, et donc, et surtout, ce CO2 3 à 4 fois plus reste jusqu'à 10 fois plus longtemps stocké dans le sol que les stocker dans les arbres. Les arbres, ça se compte en dizaines d'années. Le sol, ça se compte en centaines d'années.
D'accord.
OK, donc quand on va planter des arbres sur le sol, en fait, on amoindrit la performance globale de l'écosystème. Troisième accro, troisième, je l'ai dit. Donc, je vais passer au quatrième accro, oui, voilà. Ah oui, un autre truc avant de passer au quatrième accro. Les sols, certains sols, comme les prairies, par exemple, elles réverbèrent mieux la lumière du soleil, ce qui veut dire qu'en fait, quand les températures sont élevées, elles permettent de lutter plus efficacement face à ces hautes températures. Il peut y avoir 20% d'écart entre un sol de prairie qui réverbère bien la lumière et un sol d'arbre. Ah et ouais. Quand on sait qu'on est dans des périodes où les températures extrêmes vont se multiplier, bah, c'est pas inutile.
Ouais, j'aurais pensé le contraire, sous les arbres on a l'ombre. Et
ouais, mais là on parle pas de n'importe quel sol, on parle des prairies, voilà, ça dépend du type.
Okay.
Je suis perdu dans mes comptes, troisième accro, je crois que je suis passé au cinquième directement, je ne sais pas compter, le prof Patrick ne sait pas compter, donc c'est le quatrième accro, ce n'est pas le cinquième. Qu'est-ce qu'on replante dans ces chouettes programmes de plantation d'arbres pour sauver le climat? Bah, on a l'exemple de Total que j'ai cité, on ne replante pas des arbres locaux, on replante des arbres qui viennent d'ailleurs, des bois exotiques,
ouais,
parce qu'ils sont moins chers, et uniquement en monoculture, c'est-à-dire qu'on plante des milliers d'arbres identiques, même catégorie, ce qui n'existe pas dans l'écosystème.
Ça ressemble pas à ça, une forêt, non.
Voilà. Résultat, qu'est-ce que ça fait? Ça déséquilibre, ça appauvrit l'écosystème de façon très forte. Ça augmente très fortement la consommation d'eau locale, et c'est très sujet aux incendies massifs. Les incendies qui ont eu lieu au Portugal ces dernières années, et notamment l'été 2022, ils viennent tous de ce genre de problème, de forêt artificielle, entre guillemets. Et quand une forêt brûle, elle rejette d'un coup d'un seul tout le CO2 qu'elle a stocké pendant des années. Ça veut dire que tout est foutu par terre en un clin d'œil.
Ouais.
Cinquième accro, est-ce qu'on est certain que ces arbres replantés à la va-vite vont perdurer? Eh bien, rien n'est moins sûr. Ils meurent très souvent parce qu'ils ne sont pas adaptés à leur environnement, on vient de le dire précédemment. Alors on a deux exemples qui sont référencés scientifiquement. Hein. Au Sri Lanka, il y a eu le tsunami de 2004, il y a eu des forêts de mangroves qui ont été replantées. 5 ans après, 90% des arbres plantés étaient morts. Mmh. En Inde, d'autres cas ont été recensés de replantation d'arbres avec 50% de mortalité, ce qui est quand même assez gigantesque. Voilà donc 5 accros à ce joli tableau, 5 raisons qui nous font dire que replanter des arbres, c'est pas franchement une très très bonne idée pour le réchauffement climatique et pour l'écosystème. Alors face à ce tableau très négatif, je vais finir une fois n'est pas coutume par une bonne nouvelle.
Ah bah dis donc.
Oh, bah, prof Patrick, qu'est-ce qui lui prend, il est malade.
Qu'est-ce qui se passe?
Le règlement européen contre la déforestation importée a été voté en septembre 2022 par l'Union européenne. Alors, oui, parce qu'en fait, avant de replanter des arbres, le mieux, c'est de lutter contre la déforestation. C'est déjà logique, quoi.
Ouais.
Et pour info, le World Wide Fund a produit des études montrant que l'Union européenne, à travers ses entreprises et les actions des États, est responsable de 16% de la déforestation mondiale. Donc, l'Union européenne a voté ce règlement. Alors, ce règlement, il dit quoi? Il dit que les entreprises vont désormais devoir s'assurer que les marchandises qu'elles vendent dans l'Union européenne ne proviennent pas de terres déboisées et n'ont pas causé de la dégradation de la déforestation. La législation donc, du pays de production concernant les droits humains, les droits des populations locales, devra aussi être prise en compte. Alors, quels produits sont concernés? Eh bien, pas mal de produits. Tout ce qui concerne le bétail, le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, le bois, et tous les produits qui contiennent de ceci. Par exemple, le cuir, le chocolat, les meubles. Et également, ont été rajoutés le caoutchouc, le charbon, les produits en papier imprimé, et un certain nombre de dérivés de l'huile de palme. Donc, il y a quand même beaucoup de produits concernés par cette loi. Alors, c'est un texte, évidemment, qui est loin d'être parfait, il ne faut pas rêver. Hein. Certaines terres boisées ont été exclues du texte, parce qu'il y a eu des négociations avec des lobbies extrêmement dur. La mention des droits humains, c'est gentil, mais c'est formel, c'est pas très impératif, il n'y a pas beaucoup de contrôle derrière. Bon, c'est quand même un pas en avant très important qu'impulse l'Union européenne dans cet immense enjeu. Avant de reforester, il faut lutter contre la déforestation. Conclusion, suivons de près l'application de cette nouvelle loi et ne nous laissons pas trompés par le greenwashing des campagnes de plantation d'arbres des multinationales.
Ouais. C'est bien de planter des arbres, mais encore faut-il le faire correctement.
Oui, que ce ne soit pas du pipeau, quoi. Voilà.
Merci beaucoup, prof Patrick, à bientôt.
À plus.
Ensemble sur Calade.
Il y avait des arbres, c'est ce que nous chantent Thomas Dutronc et Philippe Catherine, et c'est là-dessus qu'on se quitte. Je vous souhaite une excellente journée. Rendez-vous demain à 12h12.
Des arbres, des couteaux, des châteaux, et dans le ciel des oiseaux rigolos. Il y avait des marbres par-dessus les tombeaux, et parfois même gravés des mots. Il y avait des vaches, des veaux et des taureaux, une vache qui marche, c'est beau. À la route amie que j'avais faite ce jour-là, je ne pourrais jamais oublier ça.
Il y avait la pluie sur le toit de l'auto, quand une pluie est gentille, c'est beau. Il y avait des gouttes qui pleuraient au carreau, sur une route qui doute, c'est beau. Et soudain, des pompes que l'on prenait d'assaut, une pompe qui pompe, c'est chaud à l'amour, ami, que la vie fit ce jour-là, fut un amour poésie avec moi.
Il y avait une phrase par-dessus les oiseaux, une phrase d'extase, c'est beau.
Il y avait la lune par-dessus les coteaux, mais une lune pas brune, c'est beau.
Et dans la campagne, un vieux train qui passait à travers la montagne pressée.
Des barrières de douane à jamais abrogées, et Dieu merci Saint-Antoine, c'est vrai.
C'est vrai.